إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous avons vu hier la victoire éclatante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à son prophète Moussa alayhi salam sur les magiciens de Pharaon qui se sont empressés au repentir alors que Pharaon, lui, s'obstina dans son orgueil et sa mécréance. Il leur adressa donc de sévères menaces face auxquelles ses croyants restèrent fermes et s'en remirent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le trouve au verset 125 de Surat al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne qu'ils ont dit « Inna ila rabbina munqalibun » En vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Ils se rappellent qu'ils reviendront à Allah subhanahu wa ta'ala et que quoi qu'ils subissent comme difficulté ici-bas, ils trouveront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense de leur foi et de leur patience. Puis ils dirent, s'adressant à Pharaon, وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا Tu ne nous reproches que d'avoir cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Tu ne nous reproches que notre foi, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Il ne leur reprochait rien d'autre, si ce n'est d'avoir cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tels sont les tyrans qui refusent que les gens suivent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion de vérité. Puis ils invoquèrent Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Rabbana afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin » Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Une fois de plus, on voit l'importance de l'invocation en toute situation, et notamment l'importance d'implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute situation, mais d'autant plus lors des difficultés. Tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala car tout est entre ses mains. Si Allah veut, ce qui est difficile pour toi peut devenir facile. Si Allah veut, ce qui te paraît impossible peut devenir simple et aisé. Tu implores donc l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui demandes de t'aider à être patient. Déverse sur nous l'endurance. Puis il demande à Allah subhanahu wa ta'ala une bonne fin. Et fais-nous mourir entièrement soumis. C'est-à-dire que quelles que soient les difficultés que le croyant peut subir, l'essentiel est qu'il meure soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe les souffrances que tu peux subir ici-bas, si tu meurs soumis à Allah subhanahu wa ta'ala en étant monothéiste, alors tu obtiendras le succès dans l'au-delà. Suite à cela, les notables du peuple de Pharaon s'adressèrent à lui et lui dirent « Laisseras-tu Moussa et son peuple semer la corruption sur terre et lui-même te délaisser toi et tes divinités ?» Regardez comment ils ont inversé les choses. Ils ont considéré la foi comme étant corruption sur terre et la mécréance comme étant le bien. Ils lui dirent « Et lui-même te délaisser toi et tes divinités ?» Donc pour eux, délaisser le shirk, délaisser la mécréance, délaisser la vénération des idoles, cela est considéré pour eux comme de la corruption sur terre. Et le bien est pour eux l'adoration d'autre qu'Allah, la vénération d'autre qu'Allah, de faire prévaloir d'autres lois sur les lois d'Allah, et ainsi de suite. Donc suite à cela, Pharaon s'enfonça alors encore plus dans son orgueil. Et il dit, faisant une fois de plus preuve de tyrannie, « Nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. » Voyez comment sont les tyrans orgueilleux, qui n'hésitent pas à faire preuve des plus graves injustices pour asseoir leur autorité. Et quelle fut la recommandation de Moussa alayhi salam face à cette situation de faiblesse? Pensez-vous qu'il dit aux enfants d'Israël de se révolter, ou alors d'organiser des manifestations? Non, rien de cela. Il savait que il n'avait aucun moyen de se défendre. Il leur adressa donc une recommandation immense et très utile pour tout croyant qui se retrouve en état de faiblesse. Il leur dit « Ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Implorez l'aide d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs et la fin heureuse sera au pieux. Implorez l'aide d'Allah, c'est-à-dire remettez-vous-en à votre Seigneur. Placez votre confiance en lui, car lui seul peut vous sortir de cet état de faiblesse. Et soyez patient, c'est-à-dire faites preuve d'endurance. Soyez patient face à ces difficultés et ces injustices que vous subissez, et patientez en restant ferme sur la vérité, jusqu'à ce que vienne le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la terre appartient à Allah. Elle n'appartient pas à Pharaon et ses soldats. Elle n'appartient à aucun gouvernement, à aucun gouverneur, à aucun président, mais la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il en fait héritier qui il veut parmi ses serviteurs. C'est-à-dire que la royauté change de main. Les souverains de ce bas monde se succèdent les uns après les autres. Mais la fin heureuse sera pour les pieux. Même s'ils sont éprouvés durant une certaine période. Ceci fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. La victoire et la fin heureuse, elle est nécessairement pour les pieux. Et lorsque le croyant se retrouve dans une situation de faiblesse, face à laquelle il n'a aucun moyen pour se défendre et repousser de lui les injustices, alors il ne lui incombe que de patienter et d'implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en attendant son secours. Les enfants d'Israël dirent alors à Moussa, « Nous avons été persécutés avant que tu viennes à nous, et après ton arrivée. » Moussa leur dit alors pour les encourager à rester fermes et à patienter, « Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard. » Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre, et il verra ensuite comment vous agirez. Voyez la bonne opinion que Moussa alayhi salam avait d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré ses injustices qu'il subissait. Il attendait le secours et il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'anéantir son ennemi, d'anéantir tout tyran, d'anéantir tout gouvernement injuste. Allah subhanahu wa ta'ala en est capable en un instant. Il n'a qu'à dire soit et la chose sera. Et il peut donner le pouvoir et la lieutenance sur terre à qui il veut parmi ses créatures. Donc effectivement, après plusieurs autres événements, Allah subhanahu wa ta'ala prépara la victoire de Moussa alayhi salam et de son peuple, ainsi que l'anéantissement de Pharaon et ses soldats. Et il ordonna à Moussa alayhi salam de quitter la terre de Pharaon. Et ce récit est mentionné à différents endroits du Coran, mais j'ai choisi que l'on s'arrête ensemble sur un passage de Surat al-Shu'ara, à partir du verset 52, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa awhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un » et nous révélâmes à Moussa « Pars de nuit avec mes serviteurs car vous serez poursuivis. » Pars de nuit, c'est-à-dire afin de prendre de l'avance, car Pharaon et ses soldats vont te poursuivre. En effet, le matin venu, ils s'aperçurent que les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte en compagnie de Moussa alayhi salam. Alors, Pharaon envoya des rassembleurs dans les villes, c'est-à-dire il envoya des gens pour les appeler à se rassembler et les inciter à poursuivre les enfants d'Israël. Il dit « Inna ha'ula la shirzimatun qalilun » Ce sont en fait une bande de gens peu nombreuses, c'est-à-dire les enfants d'Israël. « Wa innahum lana lagha'idun » Mais ils nous irritent. Il voulait donc se venger de ces esclaves qui avaient pris la fuite. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ Tandis que nous sommes tous méfiants, tous sur nos gardes. C'est-à-dire qu'il dit à ces gens, à ces soldats, les enfants d'Israël sont nos ennemis, à nous tous, et nous avons un intérêt commun à les rattraper. Pharaon sortit donc avec une armée immense, et tous partirent avec lui à la poursuite de Moussa alayhi salam et de son peuple, à l'exception de ceux qui en étaient incapables. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, فَأَخَرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ Ainsi nous les fîmes donc sortir des jardins et des sources. C'est ainsi lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide d'une chose. Les biens et les richesses que possède la personne ne peuvent rien pour elle. Il vivait dans l'opulence. Il possédait toutes sortes de richesses parmi les biens de ce bas monde. Des jardins verdoyants, des cultures abondantes, des sources d'eau coulant à flot, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi « Wa kunuzin wa maqamin karim » Il possédait des trésors et un lieu de séjour agréable. Ils possédaient donc toutes ces richesses desquelles ils ont profité pendant longtemps, mais ont tout perdu en raison de quoi? En raison de leur entêtement dans leur mécréance. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلِ. Il en fut ainsi et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que tout ce qu'ils possédaient devint la propriété de ceux qui étaient auparavant leurs esclaves. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la royauté à qui il veut et élève qui il veut parmi ses serviteurs. Il dit ensuite subhanahu wa ta'ala فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. Donc, une fois le matin venu, Pharaon et cette armée immense, poussés par la haine et l'inimitié à l'encontre de Moussa et son peuple, partirent à leur poursuite. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa alayhi salam dirent « Nous allons être rejoints, nous sommes cernés ». Ils se retrouvaient face à la mer, et ils virent en face d'eux Pharaon et cette armée immense avec tous ses soldats. Eux, ils étaient moins nombreux. Ils ont donc eu peur en voyant Pharaon et sa grande armée arriver, et furent attristés de cette situation, car, visiblement, ils n'avaient plus aucune issue et aucun endroit où fuir. Ils se plaignirent donc à Moussa, alayhi salam. Mais ce dernier, comme à son habitude, avait une bonne opinion de son Seigneur. Il savait avec certitude qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui avait promis la victoire et donc qu'il aurait la victoire. Par conséquent, il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'abandonnerait pas. Il leur répondit donc « qu'Allah, jamais, c'est-à-dire jamais Allah ne nous abandonnera. Sa promesse est véridique, nous serons sauvés avec certitude. » Il leur dit ensuite « Inna ma'ya Rabbi sayahdin. J'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » Il n'y a plus aucune cause matérielle devant nous. En apparence, nous n'avons aucun moyen de nous en sortir. Nous sommes dans une situation de faiblesse. Pharaon et son armée sont plus forts que nous. Mais j'ai avec moi mon Seigneur. J'ai avec moi Allah. Allah va me guider. Allah va m'orienter. Allah va me donner une solution pour que nous obtenions le salut. Et telle est la situation du serviteur qui place réellement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Même si les causes sont absentes, il a la ferme conviction et la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose, et que sa promesse est vérité, et qu'il n'abandonne jamais ses serviteurs vertueux. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اِدْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحَرَ. Alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. La mer se fendit en deux devant Moussa, alayhi salam, d'un simple coup de bâton. Car, comme on a dit, lorsqu'Allah veut une chose, il n'a qu'à dire soit et aller. Moussa et son peuple empruntèrent donc ce chemin au milieu de la mer. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. Et nous fîmes approcher les autres, c'est-à-dire Pharaon et son peuple, afin qu'ils les suivent et entrent aussi au milieu de la mer. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. Et nous sauvâmes Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Ensuite nous noyâmes les autres. C'est-à-dire que la mer se referma sur Pharaon et ses soldats, qui furent tous noyés. Voilà bien là un signe démontrant la véracité de Moussa alayhi salam, un signe démontrant que la bonne fin est toujours pour les croyants, un signe démontrant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose et qu'il secourt ses serviteurs croyants s'ils font preuve de piété et d'endurance. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Mais la plupart d'entre eux ne croient pas. La plupart des gens ne tirent pas de leçons de cela. La plupart des gens sont dans l'insouciance et l'indifférence. Et les mécréants, eux-mêmes, ne tirent pas de leçons de cela, alors qu'ils ont connaissance de ces récits, avec certitude, mais ils n'en tirent aucune leçon. La plupart savent au fond d'eux-mêmes que la religion est vérité, mais ils la refusent par orgueil. Pharaon lui-même savait que Moussa était venu avec la vérité, mais il a rejeté son message par orgueil. Et quand il vit avec certitude que l'heure de sa mort était venue et qu'il fut atteint par la noyade, qu'est-ce qu'il dit? Comme on le retrouve au verset 90 de Sourate Yunus. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Je crois qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors de celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. Il eut la certitude que sa fin était venue. Il a donc prononcé cette parole. Mais il lui fit dire en réponse, Al-an, wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs. C'est-à-dire, ce n'est que maintenant que tu crois, ce n'est que maintenant que tu reconnais la véracité de Moussa alayhi salam, alors qu'auparavant tu étais désobéissant, tu t'enorgueillissais, proclamais avec orgueil ta mécréance et ton rejet de la vérité, et tu faisais partie des corrupteurs. La foi ne peut donc plus être profitable maintenant. Lorsqu'un mécréant atteint cette situation, au moment de l'agonie, le repentir n'est plus profitable. Car c'est une foi semblable à la foi des gens qui seront ressuscités au jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'ils voient de leurs yeux une chose qu'ils ne peuvent plus démentir, comme les gens au jour de la résurrection. Ils croiront avec certitude, mais cette foi n'est pas profitable. La foi profitable, c'est la foi en l'invisible. Al-iman bil-ghayb, le fait de croire en l'au-delà, le fait de croire en Allah, en ses anges, même si on ne les voit pas. C'est cela qui est profitable. Il y a donc, dans ce récit et cette victoire de Moussa alayhi salam face à ce tyran, Pharaon, qui fut anéanti lui à son armée, de nombreux enseignements. Premièrement, on voit une fois de plus l'importance de la patience face aux difficultés et de l'imploration de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, ce qui est difficile peut devenir facile avec l'aide d'Allah. Ce qui paraît impossible peut devenir possible et simple avec l'aide d'Allah. Donc le croyant doit avoir une bonne opinion de son Seigneur et avoir la certitude que la bonne fin est toujours pour les pieux. Bien sûr, les pieux sont éprouvés. Bien sûr, les pieux subissent des difficultés. Bien sûr, les pieux sont parfois opprimés. Bien sûr, les pieux sont parfois traités de menteurs, traités de fous, traités de je ne sais quoi. Mais la fin heureuse, elle est pour eux, elle est pour les vertueux. Ceux qui font preuve de patience, d'endurance sur la foi, sur la religion de vérité, qui restent accrochés à leur religion quelles que soient les épreuves, qui ne vendent pas leur religion pour des biens vils de ce bas monde, c'est pour eux qu'est la bonne fin. Et par ces épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala distingue le véridique du menteur et le croyant de l'hypocrite. Tu dois donc faire preuve de patience et implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi dures soient les épreuves. Le deuxième enseignement que l'on tire de ce récit est que tout plaisir de ce bas monde a une fin, aussi abondant soit-il. Regardez ici Pharaon et son peuple, toutes les richesses qu'ils possédaient, ils ont fini noyés dans la mer. Et ces biens ne leur ont été d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que celui qu'Allah a favorisé par la richesse, en lui accordant des biens de ce bas monde, il se doit de les utiliser dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci, premièrement, est une manière d'être reconnaissant envers son Seigneur, qui l'a comblé de ses bienfaits. Et deuxièmement, c'est ainsi que ses biens et ses richesses lui seront profitables auprès d'Allah. S'il les dépense dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il les utilise pour se rapprocher d'Allah, alors il en tirera de grandes récompenses auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui est ingrat, qui n'est pas reconnaissant envers Allah, qui utilise les biens de ce bas monde et ses richesses pour s'enorgueillir, pour être pris de vanité comme l'ont fait Pharaon et son peuple, alors celui-ci, ses biens, seront pour lui une source de regret au jour de la résurrection. Si tu as des richesses, dépense-les dans le sentier d'Allah, utilise-les dans l'obéissance à Allah et sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oublie pas que ces richesses peuvent être retirées en un instant. Si tu es reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, t'en rajouteras. Mais si tu es ingrat, il se peut qu'il te les retire. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai sur vous mon bienfait. Mais si vous êtes ingrat, alors mon châtiment est certes un châtiment douloureux. Et il fait partie de ce châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala prive son serviteur de ses bienfaits. Le troisième enseignement que l'on tire de ce récit est qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève qui il veut et donne la royauté à qui il veut. Et de la même manière, il la retire à qui il veut. et tout ceci à titre d'épreuve et de tentation. Médite sur la parole de Moussa alayhi salam, qui dit à son peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fera peut-être hériter de ses terres, de ses royaumes. Puis il dit, et il verra comment vous agirez. Allah subhanahu wa ta'ala nous observe et regarde comment nous œuvrons. Il se peut qu'une personne soit éprouvée par la pauvreté, et qu'elle sache que ceci est une épreuve, en soit consciente, et fasse preuve de patience face à cela. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la richesse, mais elle n'est pas consciente que ceci est une épreuve. En effet, la richesse, c'est une épreuve. Liyabluwani a ashkuru am akfur, afin qu'il m'éprouve, vais-je être reconnaissant ou ingrat? Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve par cette richesse afin de voir si tu es reconnaissant envers lui ou si tu es ingrat. Également la santé. La personne, lorsqu'elle est malade, qu'elle souffre de différentes maladies, elle est consciente qu'elle est éprouvée. Elle fait preuve de patience, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la guérir, ainsi de suite. Mais lorsqu'elle a la santé, elle n'est pas consciente que c'est une épreuve. Et le fait d'être indifférent à cela la pousse à ne pas faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Donc il est important que le serviteur soit conscient que le bien et le mal sont des épreuves, que la pauvreté et la richesse sont des épreuves, que la santé et la maladie sont des épreuves et ainsi de suite. Et dans chaque épreuve, tu dois agir de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala afin de trouver le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et la manière qui plaît à Allah, comme on a dit, c'est que tu fasses preuve de patience et ne te lamentes pas lors des difficultés, et que tu sois reconnaissant lors de l'aisance et de la facilité. Le quatrième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est une fois de plus la nécessité pour le croyant, lorsqu'il se retrouve dans un endroit, dans un pays, dans lequel il ne peut pas se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, il ne peut pas pratiquer sa religion comme il se doit, un pays dans lequel il est oppressé, un pays dans lequel on légifère des lois afin de l'empêcher de mettre en pratique sa religion. Alors il se doit de quitter ce pays et partir vivre dans une terre d'islam dans laquelle il pourra pratiquer sa religion librement. On a vu que Moussa alayhi salam, ici, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonnait de quitter la terre de Pharaon. Et comme on a vu, Moussa alayhi salam, il n'a pas appelé son peuple à se révolter ou à faire des manifestations ou je ne sais quoi. Comme le font aujourd'hui beaucoup de gens affiliés à cette religion parmi les sectes déviantes qui appellent les musulmans à s'organiser, à se réunir, à faire des manifestations, à réclamer leurs droits au nom de la laïcité ou autre parmi les principes de mécréance qui s'opposent à notre religion. Le musulman qui est faible, qui ne peut pas pratiquer sa religion, il part et il fuit avec sa religion. Il ne sème pas le désordre dans les pays de mécréance. Même si ce sont des mécréants, cela n'est pas une excuse pour te permettre de semer le désordre et la corruption dans leur pays. Mais s'ils ne te laissent pas pratiquer ta religion librement, tu fais tes bagages et tu t'en vas. Et tu pars vivre dans un endroit où tu pourras pratiquer ta religion librement. Et alhamdoulilah, les pays d'islam sont nombreux. La terre d'Allah est vaste pour celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et fait prévaloir sa religion au bien-vil de ce bas monde. Et on a déjà parlé longuement de l'immigration dans d'autres cours. On ne va donc pas s'étaler ici sur ce sujet. Le cinquième enseignement que l'on tire de ce récit, qui est également un enseignement important, c'est que le musulman, ou l'homme de manière générale, lorsqu'il est dans le péché, ou lorsqu'il est dans la mécréance, et qu'il lui apparaît qu'il est sur le faux et dans l'erreur, il ne doit pas s'enorgueillir. Il ne doit pas rejeter la vérité et il ne doit pas tarder à se repentir. Car le repentir a des conditions afin de pouvoir être accepté. Parmi ces conditions, le fait de cesser immédiatement l'erreur, de cesser immédiatement le péché, de cesser immédiatement la mécréance. Parmi ces conditions, le fait de regretter ce péché, d'avoir des remords pour cette mécréance, pour ce polythéisme ou autre. Parmi ces conditions, le fait d'avoir la ferme volonté de ne plus recommettre ce péché et de ne plus y revenir. Et parmi ces conditions, le fait que ceci ait lieu à un moment où le repentir est accepté. Et il y a deux moments durant lesquels le repentir ne peut plus être accepté. Le premier moment, c'est lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Et ceci concerne l'ensemble des gens qui seront présents à ce moment. Car lorsqu'ils vont voir le soleil se lever de son couchant, ils auront la certitude. Et à ce moment, il sera trop tard pour croire. Et le deuxième moment, qui diffère selon les individus, c'est au moment de l'agonie, Lorsque l'âme quitte le corps, c'est trop tard pour se repentir à ce moment-là. Comme vous l'avez vu à travers ce récit, la mort de Pharaon, qui a prononcé cette parole au moment de l'agonie, alors qu'il était trop tard pour se repentir à ce moment. Donc le musulman, lorsqu'il fait une erreur, lorsqu'il fait un péché, lorsqu'il emprunte une mauvaise voie, et qu'il lui apparaît qu'il s'est trompé, qu'il n'est pas sur la bonne voie, qu'il est dans l'erreur, qu'il est dans le péché, il doit s'empresser de se repentir, s'empresser de revenir à la vérité, s'empresser de revenir à Allah, ne pas rester sur le faux par orgueil. Parfois, il y a certaines personnes, ils font une erreur, il leur apparaît qu'ils se sont trompés, mais l'orgueil les empêche de dire « je me suis trompé, je reviens à la vérité ». Il n'y a pas de doute que ceci est une erreur de plus, de laquelle également il doit se repentir. Mais le croyant, il doit être comme ces magiciens, qui lorsqu'ils ont vu les preuves évidentes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, se sont empressés de se repentir, se sont jetés au sol prosternés, et n'ont pas tardé à revenir à la vérité. Ceci était donc quelques enseignements que l'on peut tirer de ce récit. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.